Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Dans moins de deux semaines, le pape François se rendra en pèlerinage en Terre Sainte pour son deuxième voyage à l'étranger. Une neuvaine de prières commence ce mercredi dans les lieux saints de Jérusalem, soutenue par le jeûne et l'adoration eucharistique. Nous parlerons aussi de cinéma dans ce magazine, Festival de Cannes oblige. Nous verrons que pour la première fois, un évêque français fera partie du jury écuménique. Vous entendrez Monseigneur Giraud. Un deuil au sein du Collège des cardinaux. Le cardinal Marco Che est mort lundi soir. Le pape François a rendu hommage à ce grand connaisseur des Écritures saintes qui a tendrement aimé l'Église. Le Moyen-Orient est en feu, la situation géopolitique est plus que fragile, des propos tenus lundi par le patriarche latin de Jérusalem. À quelques jours du voyage du pape François en Terre Sainte, Monseigneur Fouad Toile s'est rendu en pèlerinage à Fatima pour la célébration ce 13 mai du 97e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie. Jean-Baptiste Cocagne.
C'est au pied de Notre-Dame de Fatima que le patriarche a voulu déposer ses prières pour tous les habitants du Moyen-Orient, juifs, chrétiens et musulmans, et pour le succès du voyage du Saint-Père. Au cours d'une messe au sanctuaire marial, célébrée au terme de la procession au flambeau, devant quelques 35 000 fidèles, il a redit son inquiétude au sujet de la situation régionale. Chacun, a-t-il dit, peut aider la Terre Sainte par la prière, mais aussi en demandant le respect des lois internationales. Le pape François effectuera du 24 au 26 mai prochain un bref pèlerinage à Amman, Bethléem et Jérusalem, dont l'objectif principal est d'ordre œcuménique. Il s'agit de la commémoration du cinquantenaire de la rencontre historique entre Paul VI et le patriarche de Constantinople, Athénagoras, après un millénaire de séparation et d'excommunication réciproque. Pour la première fois dans l'histoire, un office œcuménique sera d'ailleurs célébré au Saint-Sépulcre en présence des chefs des églises chrétiennes de Jérusalem. Le souverain pontife aura également l'occasion de rencontrer des réfugiés syriens, irakiens et palestiniens sur les rives du Jourdain. Pour préparer sa venue, dans un contexte politique et religieux complexe, les églises de Jérusalem ont organisé une neuvaine de prières à partir de ce mercredi. Des églises préoccupées par les actes de vandalisme qui se multiplient depuis quelques mois et l'hostilité manifestée par les juifs extrémistes.
Lundi, quelques centaines de juifs ultra-orthodoxes se sont rassemblés à proximité du Cénacle à Jérusalem pour réclamer le maintien de la souveraineté israélienne sur ce site disputé où le pape François célébrera une messe dans deux semaines avec tous les évêques catholiques de Terre Sainte. Et le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, est actuellement à Amman, première étape du voyage du pape François. Il a participé ce mardi à une réunion sur le thème « Relever les défis du monde actuel par l'éducation » organisée par l'Institut royal d'études interconfessionnelles, fondé et dirigé par le prince Al-Hassan bin Talal, oncle du roi Abdallah II de Jordanie, et par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Lors de cette rencontre, les participants ont publié un décalogue de la coopération culturelle basé sur des convictions communes qui doivent être enseignés à l'école et à l'université, tels que la curiosité intellectuelle, l'humilité, la sympathie, la raison et le pluralisme, vécus non pas comme une menace, mais comme une chance. Selon le cardinal Torrent, les Jordaniens se préparent avec joie à accueillir le souverain pontife. On l'écoute.
Toute la ville se met au travail, il y a déjà des affiches partout. Parlant avec quelques évêques, il y a une mobilisation au niveau des paroisses, et là, l'opinion publique aussi est très accueillante. Déjà, on voit partout les affiches du pape tirant la main du roi. Et donc, tout le monde se prépare à accueillir, je crois, le pape avec beaucoup d'affection et, je dirais, de manière effusive. C'est un peuple très accueillant, très hospitalier.
Il y a une grande attente.
Oui, vraiment. Donc, il y a un grand sentiment d'attente. Les personnes que j'ai rencontrées qui sont liées à nous par une longue amitié, évidemment, constatent qu'il y a une très grande sympathie envers le pape qui arrive. Le pape est très populaire.
Lors de son déplacement à Amman, le pape rencontrera notamment des réfugiés syriens. Vous avez évoqué le contexte actuel en Syrie.
Oui, ça a été dans plusieurs interventions. Oui, on a fait une minute de silence au début. Avant, on en a parlé plusieurs fois.
Ce mardi, vous avez participé à un colloque sur le thème de l'éducation.
C'était le colloque sur le thème « Relever les défis du monde actuel par l'éducation ». Ce sont des réunions que nous avons tous les deux ans en général. Nous sommes trouvés d'accord pour souligner l'importance de l'école. Une bonne éducation commence toujours par la famille et par l'école. Et nous avons aussi décidé de publier un décalogue, le décalogue d'Aman sur la culture. Une sorte de décalogue de la coopération culturelle basée sur des convictions communes qu'on doit enseigner dans les universités et les écoles, à savoir la curiosité intellectuelle, l'humilité, la sympathie, la raison et le pluralisme conçu non pas comme une menace, mais comme une chance. Nous espérons demain pouvoir adopter ce décalogue.
Ce lundi, vous aviez participé à une première rencontre qui avait pour thème religion et violence. Quelles sont les conclusions de cette réunion ?
Nous avons été tous d'accord pour dire que violence et religion ne vont pas ensemble, mais on a beaucoup insisté sur le fait qu'il n'y a pas de guerre de religion en cours. Les crises qui agitent le monde, et en particulier le Moyen-Orient, n'ont pas pour origine, pour cause, les religions. Mais les religions sont une des dimensions des solutions à ces problèmes, car on ne peut pas comprendre le monde d'aujourd'hui sans les religions. Nos amis musulmans, comme nous, ont déploré que c'est plutôt l'ignorance qui est à la base, l'ignorance et les préjugés qui sont à la base des crises, pas les religions.
Vous avez beaucoup insisté lors de ce séminaire sur la responsabilité qu'ont les leaders religieux de clarifier leur position quant à la violence lorsqu'elle s'exprime au nom de Dieu.
Ça, moi, j'ai rappelé les paroles de Benoît XVI qui sont très fortes, celles qu'il a adressées au corps diplomatique en 2006. Donc c'est une perversion morale. Et ça, tout le monde est d'accord.
Le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, interrogé par Hélène Destombes. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège l'a confirmé, le pape François a rencontré brièvement au Vatican le supérieur de la fraternité sacerdotale Saint-Pidis, Mgr Bernard Fellé, sans engager de conversation avec lui. L'information avait été publiée par le site de cette communauté. Mgr Fellé et ses assistants étaient venus participer au mois de décembre à une rencontre informelle avec le secrétaire de la commission Ecclesia Dei, chargé de gérer les relations avec la fraternité. Celui-ci avait invité ses interlocuteurs à déjeuner à la salle à manger de la résidence Sainte-Marthe, où le Saint-Père prend ses repas. Il a présenté Mgr Fellé au pape François au moment où celui-ci quittait la salle à manger. L'échange n'a duré que quelques secondes. Sur le tapis rouge et au milieu des paillettes de la 67e édition du Festival de Cannes qui s'ouvre ce mercredi, une figure inattendue, celle d'un évêque, Mgr Hervé Giraud, l'évêque de Soissons, est membre du jury œcuménique du festival et c'est une première. Il fait partie d'une équipe renouvelée chaque année qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Ce jury récompense des œuvres dans lesquelles sont reconnues bien sûr des qualités artistiques, mais aussi des valeurs humaines et évangéliques. Mgr Giraud nous explique les raisons de sa présence.
Ça signifie que l'Église s'intéresse à la culture, aux arts, à l'art cinématographique en particulier, et qu'il y a une connivence de fait entre l'Église et le cinéma. L'Église aime le cinéma. On se souvient du film peut-être de Cinéma Paradiso qui raconte cet enfant de cœur le matin. On a vu ça dans nos campagnes en France pendant très longtemps. Donc il y avait peut-être des fois de la censure du côté du curé sur telle ou telle scène qui faisait sourire, qui ferait sourire aujourd'hui. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a toujours eu cet amour du 7e art. Et je pense que l'Église a tout intérêt à être aussi présente à toutes les cultures, et notamment le cinéma. Donc ma simple présence est un signe de l'attention que prête l'Église à ce monde qui comprend beaucoup de professionnels, pas simplement des réalisateurs, mais des acteurs, des scénaristes, tous ceux qui écrivent.
Que peut apporter votre voix et celle de l'Église dans le jury et au festival ?
On a un jury de 6 membres, donc avec une double parité, 3 catholiques, 3 protestants, 3 hommes, 3 femmes. Déjà, il y a cette pluralité et de plusieurs continents, puisqu'il y a le Canada, il y a l'Équateur, il y a la France, la Belgique et l'Allemagne. C'est le fait d'être ensemble, de rediscuter des films ensemble, qui fait que chacun, avec son point de vue, permet de dire voilà quel est le film dont la qualité artistique nous paraît importante à souligner, ou le message évangélique, ou la responsabilité humaine aujourd'hui, ou peut-être une créativité, une dimension plus universelle. En tout cas, un film qui fasse peut-être réfléchir, qui soit peut-être le miroir de la société actuelle, qui prenne une question, qui anticipe celle de demain. Mon regard, j'allais dire, sera celui d'un simple spectateur, parce que je ne suis pas un professionnel du cinéma, je ne suis pas un grand cinéphile. Je me situe presque comme un spectateur ordinaire. Et en même temps, j'y serai vraiment comme évêque. Et donc, j'apporterai tout simplement mes impressions, mes réflexions avec tous les autres pour qu'on ait une sorte de conscience commune pour décerner le prix du jury œcuménique.
Quel film illustre les valeurs et le regard que vous apportez ?
Moi, je suis plus intéressé par des films, par exemple, comme Tarkovsky ou Kieslowski. C'est vrai que des films comme Le Décalogue ou La double vie de Véronique, des films qui donnent à penser, qui font réfléchir et surtout qui dépaysent. J'aime beaucoup les films qui me font changer d'air, qui me mettent en sortie. On parle de la sortie d'un film, on sort au cinéma. Le pape parle de l'Église en sortie. Eh bien, je trouve que le plus important pour moi, c'est si ça me fait sortir un peu de mes questions habituelles, si ça me déplace, si ça me dérange peut-être aussi, pour bien essayer de comprendre les questions qui sont posées dans notre société. Le cinéma est encore une fois un miroir de ces questions sociales ou sociétales.
Pourquoi l'Église s'intéresse de si près au cinéma ? Est-ce une manière d'évangéliser ?
L'Église a toujours le souci, évidemment, d'apporter le message essentiel de l'Évangile et donc du Christ. Mais en même temps, ça ne nous appartient pas tout à fait. C'est-à-dire que Dieu s'y prend d'une manière que lui seul connaît, pour, à travers un film, à travers une rencontre, à travers des acteurs peut-être, délivrer un message qui va toucher le cœur, quoi. Donc l'évangélisation, elle se décide pas comme une stratégie, elle s'accueille. Le but, c'est d'être vraiment présent. Et à l'occasion d'un festival, à l'occasion d'un jury œcuménique, on rencontre des personnes, on voit des films, on est interrogé. Il peut se passer des choses qui vont peut-être conduire à une évangélisation plus explicite, ou peut-être pas. Mais il s'agit d'y être, j'allais dire, comme le Christ était un peu au milieu de son peuple. Il va parfois chez les pharisiens, il va parfois près des lépreux. C'est la vraie vie. Pour moi, c'est comme une visite pastorale. Dans mon diocèse, j'ai fait 43 visites de paroisse. Je considère presque que c'est ma 44e visite pastorale, mais dans ce monde de la communication et notamment du 7e art, l'art du cinéma.
Monseigneur Hervé Giraud, évêque de Soissons, interrogé par Antonino Gallofaro. Et c'est ce mercredi que le film Christeros sort dans plusieurs salles en France. Lundi, les projections en avant-première ont fait salle comble, faisant encore monter la polémique. Sorti en 2012 aux États-Unis, ce film retrace les grandes lignes de la révolte d'une partie des catholiques contre l'État mexicain entre 1926 et 1929, en pleine crise entre l'Église et l'État révolutionnaire. Olivier Bonnel.
Si ce blockbuster suscite un débat particulièrement vif dans l'Hexagone, c'est parce que sa sortie est tardive, parce que peu de salles ont accepté d'assurer sa projection. Certains, surtout parmi les catholiques, dénoncent un boycott idéologique. On a voulu éviter, selon eux, que l'histoire d'une révolte contre la répression du catholicisme ne renforce la position des opposants au mariage pour tous. Pour d'autres, le critère suivi a été, comme d'habitude, celui de la rentabilité. Le flop constaté en Espagne a refroidi les distributeurs français. Certes, cet épisode historique peu connu montre la résistance de l'homme à l'oppression quand l'essentiel est en jeu. Face aux persécutions, aux profanations d'églises, aux exécutions, les catholiques mexicains déterminés à défendre leur foi se révolteront sous le signe du Christ roi et de Notre-Dame de Guadeloupe. Et il est légitime de se demander pourquoi une aussi grosse production a mis tout ce temps pour arriver dans les salles obscures françaises. Finalement, la distribution est assurée par la communauté de l'Emmanuel, qui déclare vouloir rendre hommage à un épisode peu connu de l'histoire du catholicisme et éviter toute récupération. Reste que les réactions que cette sortie tardive a suscitées en France prouvent une fois encore que des clivages profonds déchirent la société française.
Toujours en France, le porte-parole des évêques, Mgr Bernard Peutevin, a annoncé lundi dans un communiqué la suspension de l'évêque de Quimper, Mgr Jean-Marie Levert, pour raison de santé et jusqu'à nouvel ordre. Afin d'assurer durant ce temps le gouvernement du diocèse, le pape François a chargé Mgr Philippe Gunley, évêque émérite de Langres, de diriger temporairement le diocèse vacant en qualité d'administrateur apostolique. Le communiqué a été publié sur le site de la Conférence des évêques de France et a été largement repris et commenté par les médias. Cette décision, indique les articles de presse, intervient en effet dans un climat de tension au sein du diocèse breton. Le vicaire général a récemment démissionné en raison d'un malaise profond entre l'évêque et son clergé à propos de questions liées, semble-t-il, à la gouvernance. Sa démission a été suivie de celle de deux prêtres du conseil épiscopal. La tension était telle que l'archevêque de Rennes, Mgr Pierre Dornelas, s'était lui-même rendu il y a deux mois en Finistère pour une série de rencontres. Le 2 mai, Mgr Levert avait affirmé dans les colonnes du quotidien Ouest France que le problème était bien plus prosaïque et plus spirituel. Âgé de 55 ans, formé à l'école navale, Monseigneur Levert a été ordonné prêtre pour l'archidiocèse italien de Gênes au sein de la communauté Saint-Martin. Le service communication du diocèse de Quimper précise que c'est Monseigneur Levert qui a demandé à être arrêté pour des raisons de santé et de fatigue, un état de santé qui influence sa personnalité et ses rapports avec les autres. Selon des témoignages, son départ est vécu douloureusement par tous ceux à qui il avait redonné confiance. Quant à lui, l'administrateur apostolique souhaite en priorité se mettre à l'écoute de tous pour apaiser. Je vous le disais en titre, le Collège des cardinaux est en deuil suite au décès lundi soir du patriarche émérite de Venise, le cardinal Marco Che. Âgé de 88 ans, il avait été hospitalisé le 19 mars après s'être fracturé le fémur. Ses conditions de santé s'étaient ensuite rapidement détériorées. Depuis sa retraite en 2002, il s'occupait de l'assistance spirituelle des fidèles et en particulier des exercices spirituels diocésains. Homme de prière, il avait enseigné l'écriture sainte. Le cardinal Che était par ailleurs profondément attaché à la ville de Venise, qu'il avait pourtant découverte assez tard, en 1979. Il affirmait encore récemment vivre son grand âge avec émerveillement et reconnaissance. Dans un télégramme de condoléances au patriarche actuel, Mgr Francesco Moraglia, le pape François évoque son engagement infatigable et sa sagesse, et en particulier ses prédications lors des journées de spiritualité à l'intention du clergé et des jeunes, et l'importance qu'il attachait au respect de l'esprit liturgique. Les obsèques de l'ancien patriarche de Venise seront célébrés le 17 mai à la basilique Saint-Marc par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. Le Collège des cardinaux compte désormais 215 membres, dont 120 électeurs. Au Canada, une marche nationale pour la vie a rassemblé des milliers de personnes la semaine dernière devant le Parlement canadien à Ottawa, en présence du président de la Conférence des évêques catholiques, Mgr Paul-André Durocher. Elle a reçu le soutien du pape François car la vie est un droit humain fondamental qui doit être sauvegardé. L'Église canadienne a organisé dans la foulée une semaine nationale pour la vie et la famille qui se déroule du 11 au 18 mai. Je vous propose d'écouter à ce propos Michèle Boulva, directrice de l'organisme catholique pour la vie et la famille au Canada.
C'est une initiative de la Conférence des évêques catholiques du Canada qui, dans un plan pastoral adopté en 2011, suggérait, entre autres choses, la tenue annuellement d'une semaine de la vie et de la famille pour aider les familles à découvrir, à redécouvrir la grandeur du plan de Dieu sur la famille fondé sur le mariage entre un homme et une femme et pour que les gens se sentent soutenus à la fois par l'Église et par les laïcs qui travaillent à la promotion de la famille. Alors, cette année, le thème de la semaine, c'est « Parents à l'œuvre dans la joie de Jésus-Christ ». Et je crois pouvoir dire, je pense deviner que les évêques ont été beaucoup marqués par l'accent que le pape François met sur la joie d'être chrétien, la joie de servir le Christ, etc. Alors, c'est parents à l'œuvre dans la joie de Jésus-Christ. C'est important à l'heure où la famille souffre des influences extérieures qui ne l'aident pas du tout à être ce qu'elle est. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Mgr Durocher, le président de la CECC, a insisté sur tout le travail extraordinaire qui a été fait par Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II pour la famille. Et il a demandé aux gens de prier pour le synode extraordinaire qui va avoir lieu à Rome au mois d'octobre, synode sur la famille.
Michèle Boulva, directrice de l'organisme catholique canadien pour la vie et la famille, interrogée par Laura Hierassi de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Et puis sachez qu'un prêtre catholique et un laïc ministre de l'Eucharistie ont été tués en Papouasie-Nouvelle-Guinée alors qu'ils se trouvaient dans une zone reculée pour des motifs pastoraux. Le mobile du meurtre n'a toujours pas été élucidé. Les deux hommes ont peut-être été victimes d'un conflit tribal en cours dans la zone depuis quelques années. Cette nouvelle a été annoncée par l'agence Fides alors que les évêques d'Océanie sont réunis en assemblée générale ces jours-ci en Nouvelle-Zélande. Parmi les thèmes à l'ordre du jour de leurs travaux, les catastrophes naturelles dans la zone pacifique et la question sensible de la politique migratoire et des centres de rétention en Australie. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.